France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à la Divine Liturgie. Autrement dit, la célébration eucharistique, l'office qui est au cœur de la vie liturgique et plus généralement de la vie chrétienne. Nous sommes en compagnie d'un spécialiste de l'histoire de la liturgie, Mgr Job Guecha, métropolite de Pisidie, qui vient de publier un ouvrage intitulé « La divine liturgie, les cieux sur la terre », paru en 2024 aux éditions Salvator. Monseigneur, bonjour.
Bonjour Alexis.
Le livre que nous présentons aujourd'hui n'est pas le premier que vous consacrez à la divine liturgie. Alors, y a-t-il une telle richesse dans la célébration et l'histoire de cet office pour y revenir sans cesse ?
Si, il y a une très grande richesse dans la divine liturgie. Par exemple, le père Robert Taft, un grand spécialiste de la liturgie byzantine, un jésuite américain qui enseignait à Rome, a écrit 4 pavés de plus de 500 pages sur l'histoire de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, et son œuvre est restée inachevée. Donc vous pouvez vous imaginer que la divine liturgie est une source d'inspiration et surtout un océan à explorer.
Bon, alors on ne va pas faire aujourd'hui la totalité de ce qu'a vu le père Taft, hein, qui nous a quittés il y a quelques années, mais je crois que ses élèves continuent le travail. Mais on va revenir à votre ouvrage, qui est un ouvrage qui se lit très facilement, qui est technique en même temps parce qu'il explique comment on célèbre. Alors, on va commencer par le terme. Que veut dire liturgie ?
Le terme liturgie, dans la langue grecque antique, désignait un service public. Donc c'est un terme qui n'est pas emprunté au vocabulaire religieux, même si le terme pouvait être aussi appliqué à un culte. Et donc ce terme a été utilisé dans la tradition byzantine pour désigner la célébration eucharistique. Donc le terme liturgie, liturgia, est accompagné d'un adjectif divine. Donc on peut comprendre cette expression divine liturgie dans deux sens. C'est d'abord un culte rendu à Dieu, c'est l'assemblée ecclésiale qui s'assemble pour rendre un culte à Dieu, mais c'est aussi l'œuvre divine qui s'accomplit pour notre salut.
On voit bien d'ailleurs qu'on conçoit l'office divin comme un office qui est dû à tout le monde, qui fait partie de la vie publique. Ça, c'est déjà très important. Cette appellation office divin, en fait, ou divine liturgie, est attestée assez tôt.
C'est un terme que l'on retrouve dans la tradition manuscrite à la fois liturgique, mais aussi dans des passages patristiques.
Nous n'inventons rien. Enfin, absolument. À l'époque moderne, on l'utilisons. Alors, une première question, mais qui est grande, évidemment, concernant l'auteur ou les auteurs. On dit dans l'Église orthodoxe la liturgie de Saint Jean Chrysostome, la liturgie de Saint Basile, parfois on dit la liturgie de Saint Jacques, etc. Parfois, on ressort des liturgies qu'on n'avait pas célébrées depuis longtemps, Grégoire, etc. Alors, qu'en est-il au fait ? Qui en est l'auteur ?
Tout d'abord, lorsqu'on parle communément, par exemple, de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, aujourd'hui, on applique l'origine de l'auteur à l'ensemble des textes que nous avons, alors que, historiquement, il s'agit de la prière eucharistique, de l'anaphore, qui est le cœur de la célébration. Beaucoup de choses se sont greffées au fur et à mesure, au fur des siècles, autour de cette prière eucharistique. Pour ce qui est de la prière eucharistique elle-même de l'anaphore, qui est au cœur même, donc en gros, c'est la prière qui est récitée pour la sanctification du pain et du vin qui seront transformés en corps et sang du Christ auxquels les fidèles sont ensuite invités à communier. Pour ce qui est de l'auteur de l'anaphore, il faut être conscient que dans l'Église, donc il y avait des anaphores depuis l'Antiquité chrétienne, depuis les premiers siècles du christianisme. Il n'y avait pas un auteur particulier, il y avait une tradition orale. Saint Basile de Césarée, un grand auteur, un père de l'Église du IVe siècle, parlant de la tradition orale de l'Église, nous dit que personne ne connaît qui est l'auteur de l'anaphore eucharistique, ce qui montre bien qu'à son époque, il n'y avait pas un auteur, mais il y avait une tradition orale qui était transmise de génération en génération, avec probablement des adaptations, des improvisations selon les lieux et les moments. Par la suite, il y a une tradition, une légende, si vous voulez, ecclésiastique, pieuse, qui s'est imposée à partir, grosso modo, à la fin du premier millénaire, vers les années 1000, on dit que le premier auteur aurait été Jacques, le frère du Seigneur, l'apôtre de Jacques, donc la tradition estime être le premier évêque de Jérusalem, lui aurait laissé une anaphore, aurait laissé un texte de prière eucharistique qui aurait été ensuite abrégé par Saint Basile de Césarée au IVe siècle, abrégé à la suite par Saint Jean Chrysostome, toujours au IVe siècle. Voilà un peu ce que raconte la tradition ecclésiale. L'histoire de la liturgie est beaucoup plus complexe.
On ne peut pas la voir en entier. Déjà, avec votre livre, on a une base qui est très bonne. Et votre livre, évidemment, analyse la liturgie telle que nous la recevons aujourd'hui, telle que les prêtres les célèbrent, et en particulier ce qu'on appelle la liturgie de Saint Jean Chrysostome, disons d'emblée, c'est la plus courante. Hein,
tout à fait. Dans la tradition, du moins depuis le XIIe siècle, deux formulaires, deux textes de divine liturgie se sont imposés. La liturgie de Saint Basile le Grand, qui est célébrée 10 fois par an dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, et la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est celle qui est la plus fréquemment célébrée. Au XIIe siècle, un canoniste byzantin, Théodore Benzemont, dit qu'il n'y a que ces deux liturgies-là et on ne peut pas en célébrer d'autres. Donc, puisque la liturgie de Saint Jean Chrysostome, aujourd'hui, à l'époque actuelle, est celle qui est la plus couramment utilisée, pour des raisons de simplicité et de clarté, je me suis concentré sur les textes de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, sachant que le déroulement de Saint Basile le Grand est exactement le même. Donc le déroulement reste le même, seuls les textes des prières se changent.
C'est peut-être aussi le moment de rendre hommage à Mgr Georges Wagner, qui fut archevêque à la rue d'Aru, des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, et qui avait travaillé beaucoup sur Saint Jean Chrysostome et sa liturgie.
Tout à fait, sa thèse de doctorat, qu'il avait soutenue en Allemagne, et qui a donc été rédigée en allemand, démontre que Jean Chrysostome est bien l'auteur de l'anaphore eucharistique qui porte son nom. À l'époque où il a publié sa thèse, plusieurs remettaient en cause, disant que c'était une légende que le texte de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome était de la main de Saint Jean Chrysostome. Lui a démontré, sur la base d'une étude philologique, en comparant les textes des prières de l'anaphore et les textes des homélies de Saint Jean Chrysostome, il a bien montré qu'il y avait une familiarité entre dans le vocabulaire utilisé dans les deux cas. Sa thèse a été publiée en allemand, je la mentionne d'ailleurs dans la bibliographie de ce livre. Il existait jusqu'à présent une traduction russe qui avait été faite il y a une trentaine d'années, et j'apprends maintenant qu'il existe une traduction française qui vient d'être publiée aux éditions Apostolia.
Alors, votre livre suit en fait le plan de la liturgie. Vous commencez par dire ce qu'on fait avant, ce que le prêtre fait avant. Sans ça, on ne peut pas parler de liturgie. Puis évidemment, les différentes parties. Peut-être avant de commencer, très brièvement, le plan. Quelles sont les parties, on va dire?
Voilà, en effet, le livre se veut être, comment vous dire, un commentaire qui accompagne le déroulement de la divine liturgie depuis le début jusqu'à la fin. Donc, en gros, il y a 3 parties dans la divine liturgie. Il y a d'abord un office de préparation qui généralement n'est pas visible des fidèles puisqu'il est fait avant le commencement de la célébration elle-même, et cela est fait dans le sanctuaire où le célébrant prépare le pain et le vin qui sera ensuite sanctifié pendant la prière eucharistique. Voilà une première partie. Il y a une deuxième partie qui est le début de la divine liturgie à proprement parler, qui est la liturgie de la parole, où le chœur, ce sont les lectures bibliques qui sont faites, suivies d'une prédication sur ces lectures bibliques. Et puis la partie finale, qui est la liturgie eucharistique, la liturgie des fidèles, où le chœur et la prière eucharistique, suivie de la communion des fidèles.
Alors, la communion des fidèles, nous y sommes. On va entendre un extrait du Kinonikon, le chant de communion, par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycourgos Angelopoulos.
Oh,
Et avec ce chant de communion, le Kinonikon, chanté par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycouros Angelopoulos, nous revenons à notre discussion avec Mgr Job Getcha sur son livre « La divine liturgie, les cieux sur la terre ». Un mot, Monseigneur, sur ce chant. Qu'est-ce que ça veut dire, chant de communion?
Le Kinonikon, le chant de communion, est en fait à l'origine un psaume qui était chanté durant la communion du clergé et des fidèles. Donc c'était un chant qui devait couvrir un grand moment, parce que lorsque tout le clergé et toute la communauté recevait la communion, cela devait couvrir un moment assez long. Malheureusement, à certaines époques de l'histoire, on ne va pas rentrer dans les détails, la communion est devenue peu fréquente, malheureusement, et très peu de gens communiaient à la divine liturgie. Et donc, le chant de communion qui, à l'époque, était, à l'origine, était un psaume entier accompagné de refrains, a été réduit à un seul verset du psaume. Et aujourd'hui, généralement, il n'est chanté que pendant la communion du clergé. Et on ajoute d'autres chants à sa suite. Mais donc c'est un chant, un psaume qui accompagne la réception de la communion eucharistique durant la divine liturgie.
Merci beaucoup pour cette explication. Alors, retour au livre, le plan du livre donc, et aussi, je dirais, ses sources, ses bases. D'un côté, vous avez l'évolution historique de la liturgie, et puis évidemment, vous mentionnez aussi des documents, des travaux, j'allais dire, d'auteurs byzantins, qui nourrissent votre travail, évidemment, mais qui ont nourri l'organisation de la liturgie.
Qu'en est-il ? Absolument. Comme je disais tout à l'heure, lorsque nous parlons de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, par Saint Jean Chrysostome, on désigne le cœur de la divine liturgie, qui est l'anaphore, qui est la prière eucharistique. Et Mgr Georges Wagner, par exemple, a démontré l'authenticité de ce texte, bien montrer que Jean Chrysostome est l'auteur de cette prière. Toutefois, la divine liturgie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le fruit d'une longue évolution historique. Il y a eu des rites qui se sont surajoutés les uns aux autres, il y a des prières qui ont été ajoutées au fil des siècles, il y a des chants qui sont venus se superposer sur ces prières, et donc, on a aujourd'hui le fruit d'une longue évolution, et dans mon livre, j'essaye de montrer d'une part l'évolution historique de la divine liturgie. Il faut comprendre l'histoire pour comprendre parfois ce que l'on fait. Mais d'un autre côté, ce qui est extraordinaire, c'est que la tradition byzantine est très riche. Nous avons une tradition mystagogique, c'est-à-dire une tradition d'explication des rites de la divine liturgie et des autres rites liturgiques qui commencent dès la fin du IVe siècle avec Saint Cyril de Jérusalem et qui va jusqu'au début du XVe siècle, jusqu'à l'époque de Saint Siméon de Thessalonique. Donc on a pratiquement un millénaire de commentaires, je dirais, patristiques sur la divine liturgie. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces différents commentaires font écho, d'une part, de l'évolution historique de la divine liturgie, mais aussi eux-mêmes, par leurs interprétations, vont jouer sur l'évolution ultérieure. Les commentaires sont à la fois des témoins de l'évolution historique, mais les commentaires sont aussi des sujets de l'évolution historique, et j'essaye de le montrer à travers ce livre. On ne peut pas comprendre la divine liturgie sans l'histoire, on ne peut pas comprendre aussi l'évolution de la divine liturgie sans prendre en compte l'évolution des commentaires patristiques.
Est-ce que ce résultat, donc cette synthèse, on va dire, que la tradition nous a donnée, concerne l'ensemble du monde orthodoxe? Est-ce qu'il y a une uniformité dans la manière?
Tout à fait. Disons, toute l'orthodoxie chalcédonienne, c'est-à-dire toutes les églises qui étaient en communion ou qui sont nées de la mission de l'église byzantine, de l'église de Constantinople, du patriarcat œcuménique, suivent absolument le même déroulement, les mêmes textes, même s'ils utilisent ces textes dans différentes traductions, même s'ils utilisent parfois une musique qui est différente, mais les textes de la divine liturgie sont les mêmes, et je dirais même que ce sont des textes aussi qui sont employés même dans les églises catholiques orientales de tradition byzantine. Donc on a vraiment ici une tradition qui a inspiré, non seulement inspiré, mais une tradition qui demeure aujourd'hui vivante dans une large partie du monde chrétien.
deux mots sur le sous-titre, les cieux sur la terre. Est-ce l'objectif de la liturgie?
On retrouve dans la divine liturgie, nous pouvons dire, j'essaie de le montrer à différents moments du livre, on peut remarquer d'une part un mouvement ascendant, hein, donc le culte humain, le culte que les hommes rendent à Dieu, s'inspire de la liturgie céleste, qui a été dévoilé déjà dans l'Ancien Testament. On a par exemple ces chants angéliques des anges qui chantent constamment la louange de Dieu autour du trône divin qui nous est révélé dans le livre d'Isaïe, mais aussi dans le livre d'Ézéchiel. Et donc cette louange angélique, on en a un écho ensuite dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Donc la liturgie céleste a été, depuis l'origine du christianisme, un modèle pour la liturgie chrétienne, pour la liturgie terrestre. Et en ce sens, donc, on voit dans le déroulement de la divine liturgie un mouvement ascendant où la communauté ecclésiale terrestre, rassemblée dans un lieu à un moment particulier, tend à se joindre à la liturgie céleste des anges, qui est une liturgie incessante et une liturgie éternelle. Et d'un autre côté, nous avons des mouvements descendants, des mouvements, on pourrait dire, épiphaniques, où la liturgie céleste des cieux descend sur la terre, la grâce divine vient à notre rencontre, et donc, comme le disaient les légats du prince Vladimir qui se sont rendus à Constantinople au Xe siècle, lorsqu'ils ont assisté à la divine liturgie à Sainte-Sophie, à Hagia Sophia, ils ont dit « nous ne savions plus si nous étions sur terre ou aux cieux, nous n'avons jamais vu une telle beauté sur la terre ». Donc ils ont fait vraiment l'expérience de la liturgie céleste ici-bas sur terre en ce moment.
Et Sainte-Sophie, n'oublions pas, c'est pas une dame, une sainte qui s'appelle Sophie, c'est la sagesse de Dieu, c'est donc
divine.
Le Christ. Voilà, c'est ça, identifié par la tradition patristique. Alors, pour terminer, deux mots sur votre activité pastorale actuelle. Vous êtes aussi, bien sûr, comme vous êtes théologien et liturgiste de Oran, vous êtes coprésident de la commission mixte catholique-orthodoxe sur le dialogue théologique. Mais je voudrais quelques mots sur votre métropole, donc votre diocèse de Pisidie. Parfois, on pense que c'est un titre honorifique seulement, mais non, c'est un diocèse vivant.
La Pisidie était une province de l'Empire romain, située autour d'Antioche de Pisidie, donc au sud de la Turquie. C'est une région qu'a visité l'apôtre Paul lors de son premier voyage missionnaire. On peut lire dans le chapitre 13, les chapitres 13 et 14 du livre des Actes des Apôtres que l'apôtre Paul a prêché et c'est à Antioche de Pisidie où il a ouvert sa prédication au monde païen. Donc Antioche de Pisidie a été un centre important de l'ouverture du christianisme au monde païen. Et donc la métropole de Pisidie englobait toute cette province autour d'Antioche de Pisidie, une ville dont il ne reste plus que les ruines aujourd'hui. Et dès le XIVe siècle, ont été ajoutées au territoire de Pisidie deux autres métropoles, la métropole de Sidée et la métropole d'Antalya, en Pamphylie, donc une province plus au sud, qui est au bord de la mer Méditerranée. Aujourd'hui, donc, le siège de la métropole de Pisidie est à Antalya, au sud donc de la Turquie, et c'est un des rares diocèses en Asie mineure qui a vu son renouveau au début du XXIe siècle grâce à l'arrivée d'immigrants et de touristes qui se sont établis dans la région. Et donc mon prédécesseur, le métropolite Sotirios de Pisidie, de bienheureuse mémoire, a pu refonder trois paroisses qui sont actives. Donc c'est une des métropoles de Turquie aujourd'hui, une des métropoles les plus actives du patriarcat œcuménique en Turquie et celle qui est aussi la plus nombreuse en nombre de fidèles.
Longue vie donc à ces paroisses et merci beaucoup Monseigneur. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, La Divine Liturgie, les cieux sur la terre aux éditions Salvator 2024. C'était La Divine Liturgie, les cieux sur la terre avec Monseigneur Job, métropolite de Pisidie. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Nadège Antonini. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, avec Jean-Luc Gadron.